Donc là, le film, si je ne me trompe pas, a été tourné en 2005, ouais. C'est ça. Donc bon, on pourrait commencer. Donc l'avantage d'avoir vu le film, enfin l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de présenter la situation, comme hier au débat qu'on a eu sur les lieux du festival. Donc ce que je pourrais commencer par demander, c'est, voilà, ça c'était 2005, et quelle est la situation maintenant en 2010? Et puis comme je suis quelqu'un, comme on dit en espagnol, el diablo, más que por diablo sabe por viejo, je ne vais pas refaire la même erreur qu'hier, je vais d'abord demander à Jean-Marc de parler, parce qu'après les autres, quand ils prennent la parole, moi vous ne m'entendrez plus, normalement.
Il parle beaucoup. Bonsoir, bonjour. Plutôt. On n'a pas l'habitude
c'est
d'être
au cinéma
si tôt que ça, ouais, ça fait drôle.
On s'est couché tard hier.
En plus. Donc la situation actuelle, que dire, en fait, depuis les élections de 2007, en fait, Calderón est passé au pouvoir, le président Felipe Calderón, et il a déclaré la guerre aux narcos, globalement. Et donc il a envoyé en fait l'armée à Ciudad de Juárez, il a envoyé beaucoup plus de forces militaires, et ça pourrait faire surtout de déstabiliser tout ce petit système narcos policier qui tournait comme ci comme ça, et en fait ça fait monter la violence encore plus, il y a encore plus de morts de mois en mois et d'année en année, il y a toujours plus de morts en fait. Toute la partie en fait où il y a les convoyés là, avec les Américains qui viennent avec les bars, la prostitution, tout ce commerce en fait frontalier, ça s'est vraiment cassé la gueule en fait. Il n'y a plus personne, il n'y a plus de commerce comme ça depuis 2-3 ans en fait, parce que les Américains viennent plus, parce qu'il y a de plus en plus de meurtres, donc il y a plus de tourisme en fait. Il faut savoir quand même qu'il y a aussi une base militaire de côté américain. Et là, je crois que c'est la deuxième plus grosse base américaine d'entraînement. Donc ça fait beaucoup de jeunes hommes qui viennent donc passer la frontière pour passer les week-ends. Donc ce commerce-là est fini. Donc il n'y a plus de travail non plus là-dessus. Donc l'effet, c'est qu'on va chercher du travail dans les narcos. Et la violence augmente et ça augmente et ça augmente.
Ouais, oui, bah, comme tu disais, le film a été tourné en 2005. Nous, on a voulu y retourner l'année dernière et on nous a déconseillé d'y retourner. Bon, on n'y a pas été. On m'a demandé tout à l'heure, en fait, si on avait eu des problèmes pour tourner, des choses comme ça. Moins que ce qu'on imaginait, en fait. Ils nous ont laissé relativement tranquilles. En fait, on a travaillé 2 ans sur l'enquête avec Jean-Christophe Rampal. Donc on a écrit un bouquin qui est malheureusement épuisé, ou heureusement. Et on a tourné avec Jean-François Boyer, qui est un journaliste français, mais qui est installé au Mexique depuis beaucoup d'années. Et en fait, on s'était dit, ouais, ils vont nous mettre des bâtons dans les roues. Et finalement, pas tant que ça. Ou alors pas très discrètement, c'est-à-dire qu'ils nous ont suivis, enfin, on était suivis quelque temps par la police, le téléphone portable qu'on avait était sur écoute, mais c'était tellement pas discret, quoi. On avait des conversations à trois, quoi, par moment. Et il y a juste, nous on y a été avec Jean-Christophe Rampal 4 fois en 2 ans, et à chaque fois on restait entre 5 et 8 semaines, mais les 3 premières fois on était sans caméra. C'était plus pour vraiment l'enquête et le livre. On est quand même moins visible sans caméra qu'avec une caméra. Les gens nous prenaient pour des flics français au départ même. Donc c'était assez marrant. Du coup, les taxis ne nous arnaquaient pas et tout. C'était sympa. voilà. Sauf que, à un moment donné, vous faites de la télévision, donc par définition, il faut une image, et donc il faut une grosse caméra, et donc là, tout d'un coup, vous êtes beaucoup plus visible, et le premier jour du tournage, en fait, c'est le jour où on a eu la plus grosse pression, en fait, en sortant d'un rendez-vous avec le chef de la police municipale. On était en voiture, on rentrait à l'hôtel et le caméraman Nicolas Dom prenait des images et puis il regarde ça. Et lui, c'est la première fois qu'il mettait les pieds au Mexique. Donc on lui avait expliqué un petit peu la situation et bon, il s'est dit, il nous fait une crise de parano. Il fait, il y a un hélicoptère qui nous suit. Ouais, bien sûr. Et partout. Et effectivement, l'hélicoptère nous suivait. Quoi. Et à un carrefour, on a vu débouler 10 voitures de flics. Ils ont sorti les flingues, ils nous ont demandé de sortir, machin. On dit, mais on sort d'un rendez-vous avec votre chef. Ah, pardon, vous êtes les Français, excusez-nous, on s'est trompé. C'est parce qu'il y a eu un braquage et les gens sont partis dans la même voiture que vous. D'accord. Donc nous, on a appelé le contact qu'on avait, un journaliste qui nous a pas mal aidé, un photographe qui travaillait, qui travaille encore dans un des quotidiens là-bas, El Norte, qui est toujours branché sur les radios de la police. Et on a dit, Miguel, est-ce qu'il y a eu un braquage? Il fait, non, non. D'accord. Il dit, voilà, bah, ils nous ont fait ça. Il fait, ouais, bah, ils vous ont mis un petit coup de pression. Voilà. Mais on n'a pas eu... Enfin, pour répondre à la question qu'on m'a posée tout à l'heure, là, on n'a pas été... Enfin, moi, je trouve qu'on n'a pas été très embêtés. On a tourné deux jours sous protection fédérale. C'est pas très agréable de se balader pendant deux jours avec des mecs armés juste à côté de vous. Et puis, c'est pas... Enfin, voilà, on est... Les gens vous parlent moins quand il y a deux flics avec des flingues au bout du bras. Mais bon, c'était nécessaire parce qu'on allait dans des endroits un peu compliqués. Mais voilà, nous, on a toujours refusé et on s'est jamais caché. Et d'ailleurs, les gens nous ont tous parlé à visage découvert, même José Luis Vasconcelos, qui était le numéro 2 du ministère, qui est malheureusement décédé dans un accident d'avion. Même lui, au départ, nous a reçu la première fois en nous disant « je veux bien parler, mais sans caméra ». Et voilà, en discutant avec lui, il a vu qu'on avait quand même pas mal de billes, qu'on avait enquêté un moment, et il a accepté à la fin de parler à visage découvert. Il y a juste une personne qui a jamais voulu nous rencontrer et qui là nous a fait passer le message de manière ferme. C'est une des personnes qui a torturé El Cerillo, en fait. Où, voilà, on avait réussi à mettre la main dessus et il a jamais voulu évidemment nous parler, même à visage caché. Et on a tellement insisté qu'à un moment donné, il a dit « Bon, maintenant, vous arrêtez. » Enfin, ce qu'il voulait dire, voilà, arrêtez, parce que sinon, on va s'énerver. Donc là, on a vraiment arrêté, quoi. Voilà. Et depuis, enfin, juste un dernier point, j'allais dire ce qui est marrant. C'est pas marrant, mais une grande partie des gens qui apparaissent dans le film sont aujourd'hui ou morts ou en prison. L'Égyptien est décédé en prison quelques mois après l'interview. L'avocat, il s'est fait assassiner il y a deux ou trois ans. Il y a deux ou trois ans, Sully Ponce, la juge, est en prison pour une affaire de corruption. Enfin voilà. Et depuis, la situation a quand même pas mal changé.
Ça m'a fait drôle de voir ce documentaire puisqu'en fait, j'avais un peu l'impression d'être à la maison. Pour connaître à peu près toutes les personnes qui apparaissent dans le documentaire. Et on a, avec Marie-Berthe Ferrer qui est dans la salle, enquêté plusieurs années, documenté plusieurs années les cas de féminicide de Juarez. Et où en est la situation? Qu'est-ce qui a changé depuis? Donc on l'a dit, au Mexique, l'État a déclaré la guerre aux narcotrafiquants. La situation a également changé dans des pays limitrophes et notamment par extension de l'influence des narcotrafiquants de Juarez et du reste du Mexique sur les pays limitrophes. Je disais, tout en montant à cette tribune, dire que quand j'étais à Juarez, je pensais avoir vu le pire. Et malheureusement, depuis, je suis allé travailler au Guatemala. Et les cartels de la drogue mexicains, notamment le cartel du Golfe, qui est un autre cartel extrêmement puissant, et puis des groupes paramilitaires comme les Cetas, ont pris le contrôle d'un tiers du Guatemala, petit pays voisin au sud du Mexique, et ont enrôlé dans leurs forces d'anciens militaires qui sont également, puisqu'il y a eu un génocide au Guatemala dans les années 80-90, d'anciens génocidaires. Ces anciens génocidaires sont donc aujourd'hui reconvertis dans le crime organisé, dans la sécurité privée et dans la police, de telle sorte qu'on retrouve les mêmes composantes exactement qu'à Ciudad Juárez au Guatemala, à ceci près que donc la collusion notamment entre la police et les narcotrafiquants, à ceci près qu'une partie importante de ces gens sont d'anciens génocidaires qui se sont livrés à des campagnes de viol planifiées dans les années 90. On parle de 50 000 femmes violées et on parle d'un conflit de l'armée contre son peuple où 4 victimes sur 5 des violences ont été des femmes. La conséquence directe de ça, c'est que le Guatemala est aujourd'hui un pays encore plus violent que le Mexique, et je vous assure que c'est possible, hélas, qu'on parle en milliers d'assassinats de femmes, qu'on voit ici une morgue avec des outils scientifiques, qu'on voit une morgue avec de la climatisation, mais les morgues au Guatemala n'ont ni climatisation ni outils scientifiques, qu'on voit des enquêtes ici qui, même si elles sont biaisées, même si les coupables sont fabriqués de toutes pièces, ressemblent à des enquêtes avec des examens ADN. Au Guatemala, il n'y a pas d'enquête. Le taux de résolution des crimes de sang est inférieur à 2%. Les victimes de féminicides sont enterrées avec les pièces à conviction qu'elles portent sur elles, généralement le sperme, le sang, l'ADN de leurs assassins. Et hélas, au jour d'aujourd'hui, il y a eu une petite éclipse de la terreur pendant la période très courte du président Alvaro Colom, de centre-gauche. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est un militaire, un ex-génocidaire, qui est le favori aux prochaines élections, Otto Pérez Molina. Donc, en quelque sorte, le mal se présente comme le remède. Et pour travailler au Guatemala, c'est extrêmement plus difficile puisque dans la même journée, après avoir recueilli le témoignage d'une jeune femme qui avait survécu après un viol, après qu'on lui ait tiré 3 balles dans le ventre et qu'on l'ait jeté du haut d'un pont, on a donc recueilli par vidéo le témoignage de cette jeune femme qui accusait les policiers de s'être livrés à ces sévices-là sur elle. Dans l'après-midi même, le ministre de l'Intérieur et le vice-ministre de l'Intérieur sont morts dans la chute de leur hélicoptère, et nous avons fini dans la clandestinité. Nous voulions retourner au Guatemala pour travailler il y a quelques mois, et les menaces nous ont suivis jusqu'en France sous forme de SMS. Voilà.
Si, la situation que cuenta el documental a empeorado notablemente en los últimos años.
Donc ce qu'on voit dans le documentaire, là, ça a empiré fortement dans les dernières années.
La guerra contra el narco que lleva 4 años iniciada por Calderón.
La guerra qui a commencé il y a 4 ans, enfin, qui a été commencée par Calderón contre les narcos,
ha resultado un delirio.
C'est devenu un délire.
Porque no es una guerra contra el narco.
Parce que ce n'est pas une guerre contre les narcos.
C'est une guerre d'une faction du narco contre une autre faction du narco, avec une partie du gouvernement impliquée en elle et collaborant.
Parce qu'en fait, c'est une guerre d'un groupe de narcos contre les autres et avec le gouvernement qui collabore.
A lo largo del documental, no sé si habrán dado cuenta, todos los funcionarios públicos vieron uno solo que pareciera inteligente.
Je ne sais pas si vous avez vu dans le documentaire, mais sur tous les fonctionnaires qu'on voit publics, il y en a un seul qui paraît à peu près.
Que fueran mínimamente coherente.
Il n'y en a pas qui soit minimum cohérent.
Todos están como tapando la basura debajo de la mesa, ¿no?
Ils sont tous en train de mettre la poussière sous le tapis.
La enorme mayoría de ellos fueron despedidos por corruptos, capturados por otros corruptos.
La majorité d'entre eux ont été arrêtés pour corruption, ils ont été mis en prison, mais ils ont été arrêtés par d'autres corrompus.
O sea, mientras no se resuelva en México el problema esencial, que es la construcción de una moral pública,
mais tant qu'on résout pas ce problème et qu'on ne construit pas une morale publique au Mexique,
no hay solución.
Il y a pas de solution.
En Juárez, en los últimos, Juárez se ha vuelto la ciudad más peligrosa del mundo.
Juárez est devenue la ville la plus dangereuse du monde.
Paradójicamente, uno puede caminar por Juárez, pero de repente alguien te dice, son las 8, no camines por ahí.
On peut marcher comme ça, on est sur Juárez, et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vous dit « Attention, il est 8 heures, vaut mieux pas passer par là. »
La violencia tiene algunas reglas.
La violence a quelques règles.
Pero son extrañas, porque además son reglas cambiantes, ¿no?
Mais elles sont étranges et puis elles sont changeantes.
Un convoy del ejército que transporta un preso de alto capo de una de las mafias del narco.
Par exemple, voilà, un convoi avec un grand chef, un capo narco convoyé par la police.
Son soldados de un bataillon de Oaxaca del sur, no conocen el norte del México.
C'est des soldats du sud, ils connaissent pas le nord du Mexique.
Entonces llevan en la parte delante una patrulla de la policía que los va guiando.
Donc devant eux, il y a une patrouille de police qui les guide.
En la parte de atrás, otra.
Derrière, une autre.
Y dentro, tres combis con ametralladoras pesadas
et puis
y
après,
el preso.
Trois combis avec des mitrailleuses et puis le prisonnier.
Se supone que es un traslado rutinario.
On suppose que c'est la routine.
Y de repente llegan a una esquina.
Et puis arrive un croisement.
La patrulla de adelante hace un doble cambio de luces.
La patrouille devant fait deux fois d'appel de phare.
Y a 160 kilómetros por hora desaparece.
Y a 160 a l'heure disparaît.
La patrulla de atrás mete reversa y a 100 kilómetros por hora desaparece.
La patrulla de derrière, elle fait marche arrière y a 100 kilómetros por hora, c'est parti.
Y estos tres combis se quedan en medio de un fuego cruzado de ametralladoras.
Y los tres combis se trouvent pris dans un feu croisé de mitrailleuses.
Las patrullas.
Les patrouilles.
Nunca aparecieron.
Elles sont jamais apparues.
Los patrulleros. Nunca aparecieron.
On ne sait pas ce qu'ils étaient. Les gens qui faisaient la patrouille, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus.
Esta es una historia común y corriente.
Et ça, c'est une histoire normale. Ça arrive tout le temps.
De repente, empezó a producirse un nuevo fenómeno. Todos los días hay nuevos fenómenos.
Donc, il y a de nouveaux phénomènes, mais tous les jours, il y a des nouvelles phénomènes.
La llegada de un montón de pistoleros a un centro de desintoxicación.
L'arrivée d'un tas de pistoleros dans un centre de désintoxication.
Donde están recluidos jóvenes que quieren abandonar la droga.
Où il y a des jeunes qui veulent arrêter la drogue.
Donde hay supuestamente apoyo psicológico y farmacológico.
Où il y a un appui psychologique et pharmaceutique.
Y entonces ametrallan indiscriminadamente el centro.
Et ils tirent là-dedans.
11, 12, 15 muertos.
11, 12, 15 morts.
¿Cuál es el sentido de esto?
Quel est le sens de tout ça?
Que los cárteles piensan que si se desintoxican pueden volverse soplones, pueden descolgarse del aparato.
Peut-être que si se désintoxiquent, ils vont devenir des balances. Enfin, ils vont raconter, ils vont sortir de ce système.
A mitad de los puentes de la parte moderna de Ciudad Juárez, cadáveres colgados.
Au milieu des ponts de la partie moderne de Ciudad Juárez, il y a des corps pendus.
Y narcomantas.
Narco.
Mantas.
Des affiches des narcos.
Sí, grandes.
Grandes, des grandes.
Sí, que dicen, ya sabemos que tú los estás apoyando, dirigidos a un funcionario público, acusándolo de colaborar con otra banda.
Donc ça accuse certains fonctionnaires publics de collaborer avec la bande d'en face. Une des autres bandes.
Los textos de las narcomandas han sido prohibidos que se difundan en los medios de comunicación.
No es interdit que ça soit diffusé dans les médias.
Con el argumento de que no vamos a hacer publicidad a las fuerzas del crimen, ¿no?
De la publicité aux forces du crime.
Pero con el argumento de fondo que es cada vez que aparece una narcomanta denuncia a un funcionario público de alto nivel.
Mais surtout le problème c'est que chaque fois qu'il y a des panneaux comme ça c'est pour dénoncer des fonctionnaires de haut niveau.
Han cambiado cientos, probablemente miles de funcionarios públicos de nivel medio y alto.
On a changé des centaines, peut-être même des milliers de fonctionnaires comme ça de niveau moyen et haut.
Y sigue igual.
Et c'est toujours pareil.
Porque si no hay moral pública, un jefe de policía que cobra 15 mil pesos mensuales, 25 mil pesos mensuales, o sea, 1.200, 1.300 euros.
Parce qu'il n'y a pas de moral public. Un chef de la police, il touche 1.200 euros, donc 2.500 pesos.
El narco le puede ofrecer 10 veces su salario
para que trabaje para ellos. 10 fois son salaire pour qu'il travaille pour eux.
Y si no hay moral pública.
Et s'il n'y a pas de moral public.
Está haciendo lo mismo, trabajando para unos o para otros, tortura.
Ils font la même chose, pour
travailler pour les uns les autres. Fabrica culpables, asesina.
Donc ils torturent, ils fabriquent des coupables, ils assassinent.
Y el gobierno ha fracasado.
Et le gouvernement a échoué complètement.
Absolutamente.
Complètement.
Porque Calderón negoció con los Estados Unidos, yo te voy a regalar una guerra contra el narco.
Parce que Calderón, il a dit aux États-Unis, je vais t'offrir la guerre contre le narco.
Que es una guerra además que tiene su origen en Estados Unidos.
Que en plus c'est une guerre qui a son origine aux États-Unis.
La guerra, el narco produce y transporta droga hacia las grandes zonas de consumo norteamericano.
Parce que les narcos c'est vers les États-Unis, c'est les États-Unis qui achètent.
Por la frontera bajan los dólares, por la frontera suben.
Donc la frontière, il y a la drogue qui monte et les dollars qui descendent.
Sin embargo, a lo largo de estos años, estos cuatro últimos años, la cifra de muertos en México en esta guerra llega cerca de 50 000 personas.
En las cuatro últimas años, los resultados de esta guerra en México son environ 50 000 personas.
Pongan esa cifra junto a las cifras de Afganistán.
Vous mettez ça à côté des chiffres d'Afghanistan.
Palidez es la cifra de Afganistán. Sin embargo, esta guerra no está en el centro informativo internacional.
Mais cette guerre, voilà, on la voit pas dans toutes les nouvelles internationales.
Aparece y desaparece de manera caótica, ¿no?
On la voit qui arrive, qui repart de façon chaotique.
Bien. 50 000 muertos del lado mexicano. ¿Cuántos del lado norteamericano?
Donc 50 000 morts mexicains et combien du côté des États-Unis?
En la zona de frontera, Texas, Nuevo México.
Texas, Nuevo México, California.
157. Tú puedes comprar, les contaba ayer, una bala en los pueblos fronterizos por 7 centavos de dólar.
On peut acheter une balle pour 7 centimes de dollar dans tous les petits villages, dans toutes les villes de la frontière
solo
américaine.
Solo necesitas tu licencia de conducir.
Suffit d'avoir le permis de conduire.
Para comprarla.
Pour l'acheter.
Y ni siquiera toman nota de tu nombre.
Ils ne regardent même pas qui tu es.
Esa bala mata un mexicano al día siguiente.
Le jour suivant, cette balle tue un mexicain.
No hay control financiero.
Il n'y a pas de control financier.
Toda la banca norteamericana y mexicana de la barra fronteriza está colaborando en el lavado de dinero.
Toutes les banques des deux côtés de la frontière collaborent dans le blanchiment d'argent.
La estructura de inteligencia del lado mexicano está en manos de una o de otra banda de narco.
Tous les services d'espionnage côté mexicain, ils sont tous dans les mains de un ou d'autre bande de narco.
Mientras el gobierno mexicano no apoyado por la inmensa réaction de la ciudadanía qui est harta de esto.
Tant que le gouvernement mexicain appuyé par l'indignation terrible de toute la population qui n'en peut plus
no barra
ne fait pas un grand nettoyage
de una manera radical,
un nettoyage radical
toda la estructura de la ley y el orden.
Toutes les structures de la loi et de l'ordre.
Policía, ejército, policías municipales, sistema judicial, sistema carcelario.
Donc les polices fédérales, locales, l'armée, la justice, le système carcéral.
No hay salida.
Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de solution.
Il faut ajouter donc à ces 50 000 morts mexicains, 20 000 morts guatémaltèques, ce qui va nous amener malheureusement à la triste somme de 70 000 morts méso-américains face à ces 157 morts états-uniens. Il convient de dire que, d'une manière générale, une part importante et anormale de ces victimes sont des femmes. Vous l'avez vu dans le documentaire, et c'est vrai également au Guatemala, les femmes sont dans une période sociale de leur histoire où elles deviennent des chefs de famille, où elles travaillent dans des usines délocalisées, et où elles sont dans une période qui est une période d'émancipation pour elles, de conquête de droits, de demande que leurs droits soient reconnus, celui d'aller seul dans un bar avec des copines boire une bière, d'aller en discothèque, de se promener en ville, de porter la tenue qu'elles souhaitent porter. Et le message qui est adressé par la société des hommes à ces femmes qui s'émancipent est un message de mort, un message de violence. Et on voit aujourd'hui que, au final, la présence, l'omniprésence de la narco-violence fait que, qu'il s'agisse du Guatemala, qu'il s'agisse de Ciudad Juárez, l'impunité qui découle de cette situation rend possible le fait que la chasse aux femmes soit un loisir. Et donc il faut le dire aussi brutalement parce que la vérité est malheureusement aussi brutale.
Et puis il y a aussi autre chose, en tout cas dans cette histoire de féminicide, c'est comme le disait Paco, il y a 50 000 morts. Je ne veux pas tenir une comptabilité macabre, mais les femmes continuent à être assassinées aujourd'hui à Ciudad Juárez. Il y a toujours entre 40 et 50 femmes assassinées, comme on a vu là. Sauf qu'on n'en parle plus, puisque la pseudo-guerre entre cartels a fait tellement de morts. Je crois que l'an dernier, il y a eu 1900 assassinats à Juárez. Donc la quarantaine ou la cinquantaine de femmes, c'est horrible à dire, elles ne comptent plus du tout, enfin on n'en parle plus, outre le fait qu'il y a un certain nombre d'associations de femmes qui tiennent plus parce qu'il y a un manque de moyens et donc elles peuvent plus communiquer autour de ça. Esther Chavez de Casa Amiga est décédée il y a 2 ans d'un cancer. Enfin voilà, il y a un certain nombre de femmes qui tenaient un peu le qui étaient très revendicatrices, qui ne sont plus là. Et c'est un vrai problème, en tout cas pour ce qui concerne le féminicide, c'est qu'on n'en parle plus parce que c'est noyé dans les milliers de morts de la guerre entre cartels. Et il y a aussi autre chose qui explique peut-être l'impunité. Je ne veux pas faire de politique, tout ça, mais le Mexique est un système fédéral. Il ne faut pas oublier ça. Ça veut dire qu'il y a une police fédérale avec un code pénal fédéral, avec une constitution nationale, mais l'État de Chihuahua. Mais après, chaque État mexicain a également sa constitution, a également son ministre de la Justice, a également son code de procédure pénale, et un assassinat, un meurtre dans l'État de Chihuahua n'est pas traité par la police fédérale, mais par la police locale. Et comme c'est eux les plus corrompus, c'est compliqué. Il y a un vrai souci de fond, comme disait Paco. C'est plus qu'un coup de balai qu'il faut faire. C'est limite même une réforme constitutionnelle. Nous, quand on a vu la ministre de la Justice de l'État de Chihuahua, c'était juste une blague, quoi. On n'a pas compris. On s'est dit, mais attendez, le code de procédure pénale de Chihuahua n'est pas le même que le code de procédure pénale national. Donc il y a des soucis. Et les fédéraux, un certain nombre de fédéraux qui sont un peu moins corrompus, ils ne sont pas tous corrompus, mais voilà, il y a quand même des agents fédéraux qui ont les mains propres et qui travaillent, nous ont expliqué que eux, ce qu'ils cherchaient, c'était de pouvoir récupérer toutes les affaires pour pouvoir enquêter réellement, sauf qu'ils ne peuvent pas, puisque ce n'est pas considéré comme un délit fédéral, l'assassinat. Donc ce qu'ils essayaient de faire, c'était eux-mêmes essayer de contourner la loi en prenant par exemple un cas, un deuxième cas ou un troisième cas de femmes assassinées, en y injectant de manière un peu, on peut le dire quasiment illégale, un soupçon de trafic de drogue. Puisque le trafic de drogue est un délit fédéral, et donc du coup c'était pour en fait s'accaparer les affaires, les dossiers, et pouvoir enquêter à fond. Donc il fallait aussi expliquer aux familles des victimes qui évidemment disaient mais ma fille elle n'a rien à voir avec le trafic de drogue, elle s'est juste fait assassiner en rentrant de l'usine, que oui on est au courant et tout, mais comme les flics locaux sont tous pourris, on va nous essayer de récupérer le dossier, mais pour récupérer le dossier il faut qu'on explique que ta fille peut-être elle est liée à un trafic de drogue. C'est compliqué, schizophrénique pour les familles.
Qu'est-ce qui fait le prix d'un kilo de cocaïne, au fond ? Et c'est très important comme réflexion dans ce qui se passe. Et ça explique pourquoi les guerres contre les cartels sont des guerres folles. Qu'est-ce qui fait le prix d'un kilo de cocaïne ? C'est son illégalité. C'est-à-dire que si la cocaïne n'est pas illégale, au fond, le vrai prix d'un kilo de cocaïne, c'est le prix d'un kilo de café, en termes de production pure. Donc la seule chose qui fasse le prix d'un kilo de cocaïne, c'est son illégalité. Et ça procure au cartel des moyens absolument considérables au Mexique, au Guatemala, mais pas seulement. Au Brésil, c'est la même chose. Il faut se rappeler que l'an dernier, les cartels brésiliens ont descendu un hélicoptère de l'armée avec un missile sol-air devant les caméras de télé. Qu'est-ce qu'on a face à ça ? Alors, au Mexique, on l'a vu. Au Guatemala, la brigade anti-féminicide, c'est 9 agents avec des ordinateurs attachés à un bureau par des câbles de vélo pour pas que quelqu'un les vole. Pas d'armes personnelles en dehors d'un pistolet qui n'est pas très développé ni très précis. Pas de radio dans l'unique voiture de la brigade, c'est-à-dire qu'en cas de pépin, il faut appeler des renforts avec son téléphone portable personnel. Voilà ce qu'il y a en face de ça. Et le problème, c'est que très souvent, par ailleurs, la police, qui est censée enquêter quand elle enquête, et qui parle des problèmes de narcotrafic et qui va les lier éventuellement aux problèmes de féminicide, elle est une partie constituante et constituée du narco-crime organisé.
Bon, je vous avais dit que je ne parlerais pas beaucoup, vous voyez, je ne m'étais pas trompé. Par contre, comme on est dans un cinéma, j'aimerais revenir à quelque chose, Paco le vendredi soir, il a dit une phrase et puis on n'a jamais pu revenir dessus. Il a dit que tout avait commencé avec la soif du mal d'Orson Welles. Et il voulait nous parler de la soif du mal.
Sí, no todo había empezado, pero había empezado a contarse con esa película.
Ça avait commencé à se raconter avec ce film.
Que es una película que supuestamente cuenta Tijuana y la conexión del otro extremo de la frontera, del extremo oeste.
Donc là, c'est Tijuana et l'extrême ouest de la frontière.
Sí, además, últimamente apareció las notas de Orson Welles de cómo debería haber sido hecha la película, 52 cuartillas de notas.
Et là, on vient de trouver des notes d'Orson Welles de comment ça aurait dû être monté ce film.
Porque a Orson Welles le quitaron el derecho de montaje del último momento del film, la productora.
Il a pas eu le droit de monter le film, pas eu le droit de monter la fin du film. Le producteur lui a interdit.
Y la versión que todos hemos visto a lo largo de los años no es la versión de Orson Welles.
Et donc la version qu'on a tous vue, c'est pas celle d'Orson Welles.
Pero ahora hay un remontaje siguiendo las instrucciones de Welles.
Mais on est en train de refaire un montage pour suivre ses instructions.
La película es notable, notable.
Et c'est un grand film.
Sí. Ahora palidece al lado de lo que estamos viendo.
Bon, certes, c'est pas grand-chose par rapport à ce qu'on voit maintenant.
De cualquier manera, tiene una inmensa virtud. Los corruptos en esa película son los gringos.
Mais c'est un grand avantage, c'est que les corrompus dans ce film, ce sont les gringos.
Rien à ajouter, sinon que effectivement la corruption existe aussi du côté états-unien. Quand on ramasse le commandant de la Border Patrol à Agua Prieta au Texas avec son 4x4 plein à ras-bord de marijuana, évidemment, on peut aussi considérer que la corruption existe absolument du côté des États-Unis. J'étais il y a un an au Texas. Du côté états-unien, donc de la frontière, où j'ai entendu cette histoire incroyable, des agents du FBI, un jour, sont venus jusqu'à la frontière pour escorter des federales mexicains jusqu'à la maison d'un narco qui vivait dans un village texan, sur lequel il régnait avec toute sa fortune. Et les federales l'ont exécuté, et ensuite, les agents du FBI ont raccompagné les federales jusqu'à la frontière. Et évidemment, les fédérales n'ont pas exécuté ce narco pour le compte de l'État mexicain seulement, mais également pour le compte du cartel qui comptait occuper sa place. Voilà. Donc, c'est dire que de toute façon, les choses sont également du côté états-unien, et il serait intéressant d'aller voir un petit peu ce qui se passe du côté états-unien de cette frontière, sans oublier le fait que tous ces morts meurent pour la consommation de drogue états-unienne et européenne. Ne nous oublions pas nous-mêmes, les cartels sont également en Espagne, il faut le savoir. Et je disais il y a un instant à Marc que quiconque annoncerait la légalisation compterait sans doute au Mexique et dans beaucoup de pays le temps qui lui reste à vivre en heure.
Alors là, on a beaucoup parlé des narcos, mais il y a quelque chose qui apparaît un peu dans le film, qui apparaît dans les différents livres que vous avez faits aussi, qui est un élément constitutif, c'est les maquiladoras. Est-ce qu'on pourrait revenir sur le fait un peu de qu'est-ce que c'est ces usines, et est-ce que c'est peut-être pas un hasard si c'est autour d'une zone où il y a ces usines qu'on tue des femmes aussi?
Alors, moi je parle beaucoup décidément, mais pas, non?
Qualquiera. Bon. Tu cuéntanos, yo me voy a fumar de nuevo.
Les maquiladoras sont des usines d'assemblage qui se sont installées à partir de 1994, d'abord essentiellement le long de la frontière américano-mexicaine, sur 3000 km de long d'un océan à l'autre, et puis dans toute la Mésoamérique, suite à l'entrée en vigueur des accords de l'ALENA, donc accords de libre-échange nord-américain, qui permettent la fabrication et la circulation des marchandises sans aucune taxe douanière entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. Et donc, en quelques semaines, des dizaines d'usines ont commencé à pousser tout le long de ce cordon de frontière du côté mexicain. Elles emploient essentiellement des femmes. et elles sont des usines donc d'assemblage. Les ouvrières y sont payées une moyenne de un peu plus de 3 dollars par jour. À quelques kilomètres de là, aux États-Unis, le salaire est de 5,45 $ de l'heure. C'est pour vous donner une petite idée. Et donc les produits manufacturés peuvent traverser la frontière et arriver en quelques heures sur le premier marché mondial. Les employeurs, ces usines viennent de partout. Elles viennent des États-Unis, bien sûr, mais aussi d'Europe. On y trouve Thomson, on y trouve Alcatel. Donc les Français sont là aussi. Thomson est le plus gros employeur de Ciudad Juárez. Elles viennent de Corée, elles viennent du Japon. Les droits des ouvrières y sont méprisés. Leurs droits en tant qu'êtres humains sont régulièrement totalement niés. Les ouvrières vivent, comme vous l'avez vu, dans des bidonvilles aux portes du désert. Les transports pour les amener de leur lieu de travail à leur lieu de vie sont parfois presque inexistants. Les conditions de vie dans les bidonvilles, les conditions de proximité avec des hommes désœuvrés, les rendent fragiles face aux tentatives de viol. Dans les usines, le harcèlement sexuel est la règle, l'humiliation sexuelle est la règle. Et les naissances d'enfants mal formés suite à l'usage et l'abus de produits toxiques sont extrêmement fréquents. Donc on a vu en l'espace de 2 ans, quand on a commencé à travailler sur cette frontière entre 94 et 96, l'installation de 3 à 4 000 usines, pour vous donner une petite idée de l'importance du phénomène. Alors, plus on descend vers le sud et plus les traitements des femmes dans ces filiales de multinationales sont épouvantables. Ça va par exemple de la frontière où on obligeait les femmes à présenter leurs serviettes hygiéniques usagées tous les mois au contremaître pour prouver qu'elles n'étaient pas enceintes, parce que sinon on n'embauche pas de femmes enceintes, donc elles étaient tout simplement virées. Et ça, c'était des pratiques qu'on a vues en usage dans des multinationales européennes comme Philips par exemple, on l'a vu chez Epson. Mais en descendant vers le sud, en arrivant au Guatemala, vous avez des maquiladoras de textile où des femmes font des tours qui durent 24 heures et plus, et où pour tenir, elles doivent consommer des amphétamines, et où la direction organise le commerce de ces amphétamines pour ces ouvrières. Voilà. Donc on voit que, au fond, ce qui arrive, ces violences contre les femmes, en quelque sorte, les maquiladoras en sont l'amphithéâtre, en sont, voilà, c'est une sorte de lieu où la violence envers les femmes commence et ensuite elle se poursuit dans la rue. Et ce phénomène a aussi pour effet de concentrer un très grand nombre de femmes jeunes qui viennent des campagnes souvent dans le même endroit. Et ces femmes découvrent à ce moment-là leurs droits et, comme je le disais tout à l'heure, accèdent à une émancipation qui leur est niée par la société des hommes.
Juste, quand on a commencé à travailler sur ce sujet, on a fait des recherches documentaires et on a trouvé un article qui date de 1916 du Boston Herald, donc un grand quotidien américain, qui a envoyé un journaliste à Ciudad Juárez et qui disait ceci: Ciudad Juárez est le bordel des États-Unis. Donc on était en 1916. Et moi, j'ai l'impression que ça n'a pas vraiment changé, en fait. Voilà. C'était, comme le disait Troubs tout à l'heure, c'est vrai que depuis 2-3 ans, ça s'est un petit peu calmé au niveau des jeunes Américains qui viennent. Enfin, voilà, c'est plus possible. Nous, la première fois qu'on y a été, le vendredi soir, c'était impressionnant, la file de voitures sur le pont pour passer d'El Paso. Il faut juste vous dire qu'on dit aujourd'hui que Juárez est la ville la plus dangereuse du monde. En face, El Paso, c'est la deuxième ville la plus sûre des États-Unis. Donc on se dit à un moment donné qu'ils venaient tous foutre le dawa de l'autre côté, évidemment, c'est plus facile. En face, c'est le Texas, il ne faut pas oublier, qui a la peine de mort au Texas. Il n'y a pas la peine de mort au Mexique. Moi, je suis persuadé qu'il y a un certain nombre de délinquants américains qui viennent commettre leur forfait à Ciudad Juárez. Enfin, voilà, c'est très facile de passer la frontière quand on a des papiers en règle. Nous-mêmes, on l'a fait. Le premier voyage qu'on a fait, on est arrivé par El Paso. On a passé la frontière à pied avec notre valise. Personne nous a demandé notre passeport. Il y a je ne sais pas combien de millions de passages par jour. C'est comme si vous preniez le métro, quoi. C'est, voilà, c'est un tourniquet. Et, on parle souvent des dos mouillés, de la frontière. Enfin, c'est une fois que vous avez des papiers, il y a ce qui s'appelle le visa express pour les gens qui travaillent d'un ou de l'autre côté de la frontière. C'est une carte d'abonnement de métro, quoi. Et vous passez d'un pays à l'autre comme ça. Et c'est assez impressionnant de voir le va-et-vient qu'il y a sur les trois ponts qui enjambent le Rio. C'est impressionnant. Mais le coût du bordel des États-Unis, aujourd'hui, ça, ça l'est encore. C'est vraiment impressionnant.
Tu es rentré dans les maquiladoras,
hein? Juste, les maquiladoras aussi, c'est, elles emploient des milliers et des milliers de personnes. Ça rapporte énormément d'argent à la ville. Nous, juste pour vous donner un peu l'ambiance, on a réussi à rentrer chez Philips. On s'est fait, on est rentré un peu en loose day, on s'est fait mettre dehors un coup de pied aux fesses. Voilà, ils veulent pas qu'on filme à l'intérieur, évidemment. Mais à chaque fois qu'on arrivait, on avait les honneurs de la presse locale, notamment d'un des deux quotidiens de là-bas qui s'appelle El Diario de Juárez, qui disait « Les Français sont arrivés pour donner encore une mauvaise image de la ville. » On a eu rendez-vous avec le maire qui nous disait « Arrêtez d'enquêter là-dessus parce que nous, on a des investisseurs étrangers qui ne veulent plus ouvrir d'usine chez nous. » Il dit « Mais attendez, moi, je ne suis pas le communicant de la ville de Juárez. Enfin, si vous arrêtez les coupables, on ne vient plus. Enfin, » c'est voilà, le problème de ces affaires-là, c'est l'impunité qui règne autour de ça. Nous, on disait au maire... il y a peut-être 50 femmes assassinées par an, mais s'il y a 50 coupables et que vous les trouvez et que vous les mettez dans les barreaux, les journalistes étrangers ne viennent pas. Ça ne fait même pas une brève dans les journaux. Enfin, ça s'appelle un fait divers. Voilà, point. Là, on est passé du fait divers au phénomène, au féminicide, à une histoire politique, sociale. Enfin, c'est compliqué, tout ça.
Oui, parce que ce qui est dit à un moment, et on en avait parlé hier, c'est qu'il y a une chose, c'est que c'est toutes des femmes, mais c'est toutes des femmes pauvres.
C'est ce que je racontais hier pendant le débat. Oui, pour nous, c'est aussi des crimes de classe. Je racontais l'anecdote hier. Un jour, on était là-bas et il y a une femme qui disparaît. Et on voit les hélicoptères, l'armée, les fédéraux, tout le monde se met en branle. Et ils ont retrouvé la fille en une heure. Sauf que c'était la fille d'un notable qui était déprimé et qui s'était caché dans une chambre d'hôtel. Donc ils ont les moyens, s'ils veulent, ils peuvent retrouver les filles qui disparaissent. Enfin, c'est aussi une question de volonté. C'est des filles. La vie d'une femme à Juárez, en tout cas à l'époque, aujourd'hui aussi, ne valait rien. Voilà, c'est ça. C'est tout simplement ça.
Si, piensen en una ciudad de 1,5 million d'habitants.
Pensez, c'est une ville d'un million et demi d'habitants.
Que además fluctúa enormemente porque es una ciudad portaaviones.
Es una ville portaaviones.
Mucha gente llega para irse.
Y hay gens qui arrivent, mais pour partir.
Mucha gente regresa.
Y hay gens qui reviennent.
Mucha gente es deportada de regreso.
Y en a qui sont renvoyés, en fait.
Y no quiere regresar a sus lugares d'origine.
Et ils veulent pas revenir à leur lieu d'origine.
De todas maneras, una ciudad de una inmensa movilidad social.
C'est une ville avec une immense mobilité sociale.
Y uno de los fenómenos es muchas de las mujeres muertas no se sabe quiénes son. Sus familias piensan que están viviendo en Estados Unidos, que se fueron con un novio.
Donc il y a beaucoup de femmes, on ne sait pas qui c'est. Les familles croient qu'elles sont aux États-Unis, qu'elles sont immigrées, que peut-être elles sont avec un fiancé.
En el documental pudieron seguir la historia de las muchachas de Juárez que tienen familia, ¿no?
Là, on a vu les filles de Ciudad Juárez qui ont une famille qui se préoccupe d'elles.
Ah. Pero cuando se muestra la morgue, el número de cajas de cadáveres no identificados es inmenso.
La cantidad de caisses avec des mortes non identifiées est énorme.
No sé, por cierto, si no percibieron en el documental la ausencia de los padres.
Je sais pas si vous avez vu dans le documentaire, il y a pas les pères.
Solo de las madres.
Il y a que les mères.
Es una sociedad de madres solteras.
C'est une société de mères célibataires.
Es muy peculiar el fenómeno, ¿no?
C'est très particulier.
Víctor Ronquillo, que fue el precursor de la investigación de las muertas de Juárez, periodista mexicano y amigo nuestro.
Entonces, un ami a eux, un journaliste mexicano, Víctor Ronquillo, que ha démarré toute l'investigation autour de ces affaires.
En solo un mes de trabajo allá en Juárez.
En seulement un mois de travail à Juárez.
Avanzó más que todo el trabajo policiaco que se había hecho durante un año.
Plus avancé que tout le travail policier pendant plus d'un an.
Armado solo con dos instrumentos, que
il avait seulement deux instruments,
que es el sentido común,
le sens commun,
y la mentalidad de escritor de novela negra,
et la mentalité d'écrivain de roman noir.
Empezó a plantear, a decir, a ver, no todo es lo mismo.
Il a commencé à dire, mais c'est pas tout pareil.
Si sigues una sola línea de investigación y estás buscando un único criminal, vas a dejar una incoherencia inmensa.
Si tu cherches une solution et un criminel, on va laisser une incohérence terrible.
Cada caso hay que individualizarlo porque muchos de ellos sí son casos de violencia familiar.
Il faut vraiment mettre chaque cas à part parce que déjà il y en a beaucoup, c'est de la violence familiale.
O de violencia de su mundo, de cantinas, prostitución.
Ou de la violence de monde des bars, de la prostitution.
O fenómenos vinculados a una parte del narco.
Ou des phénomènes liés à une partie du narco.
El narco crea el dinero, el gran dinero.
Le narco se fait l'argent.
Y crea las grandes bandas.
Et les grandes bandes.
Y las grandes estructuras de apoyo a estas grandes bandas.
Et les grandes structures d'appui à ces grandes bandes.
Y de repente el narco se encuentra que tiene 3.000 asalariados y no solo necesita 50.
Et puis d'un coup les narcos se retrouvent avec 3.000 salariés, ils en ont besoin de 50.
¿Qué haces con los otros 2.950?
Qu'est-ce qu'on fait avec les 2.950 qui restent?
Los colocas en el trabajo productivo.
Tu les mets dans le travail productif.
Y entonces se va creando, y esta es una vieja historia, es la historia de la prohibición en Estados Unidos.
C'est la vieille histoire de la prohibition aux États-Unis.
Entonces empiezas a encontrar espacios de la ilegalidad donde hay dinero.
Et donc on se retrouve avec des espaces d'illégalité où il y a de l'argent.
El último problema de Juárez y el más grave.
Le dernier problème de Juárez, le plus grave.
Era la venta de protección.
C'est la vente de protection.
Que recorría de una manera excepcional la sociedad desde arriba hasta abajo.
Qui traverse toute la société de façon incroyable depuis en haut jusqu'en bas.
O sea, la visita a un industrial para decirte para que tu empresa esté tranquila tanto al mes.
Donc ils vont voir un industrie, une boîte, ils vont dire si tu veux être tranquille, c'est tant par mois.
Pero la visita a un vendedor de cacahuates que vendía cacahuates en el suelo para decirle el metro de banqueta a tanto.
Mais ils vont aussi voir le gars qui vend des cacahuètes par terre et lui dit le mètre là c'est tant par mois.
O sea, habían recorrido toda la sociedad vendiendo
protección. Toute la société a été traversée par ça.
Habían controlado la prostitución, que en Juárez es el gran negocio.
Ils ont contrôlé la prostitution, qui est le grand commerce de Juárez.
Pero esto significaba un mundo extra, que era el secuestro de jóvenes y adolescentes para llevarlas a otras partes del país en las cadenas de la prostitución y el tráfico de blancos.
Et ça a généré encore autre chose, c'est les enlèvements de jeunes pour les prendre et puis les envoyer dans d'autres endroits de prostitution dans le pays.
Entonces, va cubriendo el conjunto de la sociedad.
Ça recouvre toute la société.
Si a esto le sumas la impunidad, la ineficiencia,
si a ça on rajoute l'impunité, l'inefficacité policière,
y la ausencia de moral pública, que es el problema fundamental.
Et l'absence de morale publique, qui est le problème fondamental.
Encuentras esta especie de infierno.
On retrouve cette espèce d'enfer.
Yo pude revisar a lo largo de mi vida dos expedientes policiacos con cuidado.
J'ai pu voir de ma vie deux affaires policières vraiment jusqu'au bout.
En uno de ellos, expedientes.
Les dossiers d'instruction.
D'accord. Sí.
La investigación oficial. En uno de ellos encontré 76 errores.
Dans un, j'ai trouvé 76 erreurs.
Y era el expediente que condenaba a 40 años de cárcel a un adolescente en México.
Et c'était un dossier qui condamnait à 40 ans de prison un adolescent.
76 errores.
76 erreurs.
Afortunadamente pudimos llevarlo a debate público, publiqué un libro y lo logramos sacar de la cárcel en una revisión del juicio en un tribunal superior.
Heureusement, on a réussi à faire sortir cette affaire devant le public et on a réussi à le faire libérer en faisant remonter l'affaire à un niveau supérieur.
En otro que condenaba a la cárcel a tres jóvenes acusados de participar en la guerrilla.
Donc en autre, il y avait trois jeunes accusés de participer à la guérilla.
se encontraban cosas tan delirantes como.
On trouvait des choses aussi délirantes que.
Un testigo que decía que habían, los había visto huir de los alrededores de un banco en un coche verde.
Il y avait un témoin qui les avait vus s'échapper des environs d'une banque dans une voiture verte.
El testigo no existía.
Le témoin n'existait pas.
No tenía nombre.
Il n'y avait pas de nom.
No tenía, no decía si era niño, viejo, joven.
On ne savait pas si était petit,
era
jeune.
Un testigo.
C'était un témoin.
Ah. El coche verde era seguido por una patrulla de la policía.
La voiture verte était suivie par une patrouille de la police.
¿Cómo lo siguió?
Comment ils les ont suivis?
No se explicaba.
On ne sait pas.
El coche verde llegaba a una casa.
La voiture verte arrivait à une maison.
Y misteriosamente se volvía un coche blanco.
Et ça devenait une voiture blanche.
Al principio había sido un Volkswagen y luego se volvía un Ford.
C'était une Volkswagen et c'était devenu une Ford.
O sea, era el coche que cambiaba de color, pero también de marca.
C'était une voiture super, elle a changé de couleur, mais aussi de marque.
Gracias al seguimiento, la policía había descubierto una casa de la cual había seguido al coche verde a una segunda casa.
Et alors, grâce à l'avoir suivi, cette voiture verte qui était devenue blanche, ils avaient réussi à la suivre à une deuxième maison.
Pero ya no era verde. Ni non, era
mais
blanco.
Mais elle était plus ni verte ni blanche.
No, seguía siendo blanco, pero si. Ya no era un Ford.
Mais oui, elle était toujours blanche, mais c'était plus une Ford.
Había cambiado de marca entre la primera y la segunda casa.
Elle avait changé de marque entre les deux maisons.
Ese es el tipo de investigación.
C'est ça le type d'enquête.
Los culpables estaban prefabricados.
Les coupables sont préfabriqués.
Formaban parte de una decisión política, eran los hijos de dos guerrilleros.
C'était les enfants en fait de deux guerrilleros.
Y los querían detener para crear una presión y un chantaje sobre sus padres.
Et ils voulaient les prendre pour faire pression et chantage sur les parents.
No tenían nada que ver con la guerrilla.
Ils n'avaient rien à voir avec la guérilla.
Sin embargo, pasaron cuatro años en un penal de alta seguridad.
Mais ils ont quand même passé 4 ans dans une prison de haute sécurité.
Todos los policías implicados en la investigación, todos.
Tous les policiers qui ont fait cette enquête
colocaron armas, pusieron billetes,
ils ont mis des armes, ils ont mis des billets, cambiaron
automóviles de marca, de nombre, de color.
Ils ont changé les voitures de marque, de nom, de couleur.
Un juez que lea ese expediente no podía pasarle de frente.
Un juge qui lisait ça, il pouvait pas laisser
cambio
passer
ça. Del Volkswagen al Ford, de verde a blanco, de blanco a blanco, pero ya no Ford, ¿no?
Ça, un juge, il peut pas laisser passer tout ça, c'est pas possible.
Bueno, no lo sé, porque el nivel de imbecilidad está vinculado al nivel de corrupción.
Mais je sais pas parce que le niveau de bêtise est lié au niveau de corruption.
Pero aún así.
Mais même comme ça.
No importaba, el juez había tenía consigna de la
procuraduría. Le juge, de toute façon, il a des consignes.
Tienes que condenar a estos muchachos.
Il faut condamner ces trois gamins.
O sea, point. Todo el sistema estaba involucrado.
Tout le système était pris là-dedans.
¿Hay esperanza? Sí, sí hay esperanza.
Il y a de l'espoir.
Los vamos a sacar a patadas en el culo.
On va les sortir à coups de pied au cul.
La sociedad mexicana está harta.
La société mexicaine a marre.
Está creciendo fuertemente a lo largo de todo el país un movimiento por la paz.
Il y a un grand mouvement pour la paix qui est en train de grandir dans le pays.
Con el argumento de así no, esa guerra no.
Ça, je veux pas de cette guerre.
No, no más muertos.
Plus de morts.
La insignia gráfica de este movimiento es una cruz que dice no más sangre.
Yeah, donc le symbole c'est une croix avec qui dit plus de sang.
Y cuando le preguntan al movimiento, pero ustedes están defendiendo a los narcos.
Alors quand ils disent au mouvement mais vous êtes en train de défendre les narcos.
La respuesta es no, nosotros lo que estamos es diciendo así no.
Non, nous ce qu'on dit c'est pas ça, c'est comme ça non.
Bonjour. Alors merci déjà pour ce reportage. Juste pour transmettre un petit peu moi mon ressenti quand je vois ce type de reportage, on voit quand même que c'est le type de reportage Canal+, avec pas mal de, enfin bien monté et tout ça. Et ce que j'ai l'impression moi quand je vois ce reportage, c'est que la question des féminicides, en fait, ça devient une entrée pour venir parler des trafiquants de drogue, pour parler de l'impunité, des problèmes de corruption, du système judiciaire qui fonctionne très mal et tout ça. Et du coup, c'est pour ça que je vais juste faire un tout petit peu de publicité et que En fait, le mois prochain, il y a le Festival latino-américain de documentaires. C'est un festival de documentaires militants sur l'Amérique latine. Et on fait partie d'une association qui s'appelle Les Branleuses, qui est une association féministe, basée à Toulouse. Et on organise une soirée féministe sur la question des féminicides. Et sur, voilà, notamment, on a 4 documentaires, justement, sur le Mexique et le Guatemala, un peu pour, justement, reparler des féminicides, mais un peu plus sous l'angle des femmes. Et je dis pas que c'est complètement occulté, mais pour moi, il y a énormément de choses qui sont traitées et des choses très importantes sur comment fonctionne l'Amérique latine aussi et comment il y a des choses très compliquées pour lesquelles, contre lesquelles combattre. Hein, c'est des gros enfin bon, bref. Et voilà, juste pour vous dire donc, que c'était le 7 novembre, que ce sera au Cratère à 20h30, et c'est une soirée projection débat, et que ça s'appelle... c'est un hommage à Betty Carino, une militante féministe de l'État d'Oaxaca, qui faisait partie du Cactus, et du coup c'est une soirée projection débat sur les féminicides, intitulée « Le système patriarcal assassine les femmes, la résistance féministe s'organise ». Voilà. Si. Ah oui, je voulais juste faire remarquer, parce que je fais la féministe de service et que c'est toujours important de le dire, je suis aussi un tout petit peu contrariée parce que je vois qu'une table d'hommes devant moi pour parler des féminicides. Et bien sûr que vous avez toute votre légitimité pour en parler, vous avez beaucoup de connaissances et c'est très intéressant de vous entendre, mais voilà, je trouve que c'est quand même des sujets où malheureusement, il faut toujours, voilà, faut en parler.
Et parce qu'une femme journaliste, par exemple, elle aurait fait. Enfin, moi, je vois pas le problème, en fait.
C'est pas que c'est une femme.
Oui, on est des mecs, désolé. En fait, c'est juste, pardon, mais c'est juste l'argument que nous renvoyait à la figure les gens de Juarez, enfin les autorités de Juarez. Moi, il y a même une journaliste de là-bas, enfin d'El Paso, pour être très clair, une fille qui travaille à El Paso Times. Qui s'appelle Diana Washington, qui a écrit aussi un livre sur cette histoire, moi que j'ai refusé de voir parce qu'elle m'a juste expliqué la première fois qu'elle a travaillé sur ce dossier parce que c'est Dieu qui lui a demandé. Fait, ok, d'accord, au revoir. Mais qui m'a dit et qui m'a mis comme ça en pleine figure, mais toi tu n'as pas le droit de travailler sur cette histoire, un, parce que t'es un homme, et deux, parce que t'es pas mexicain. Je dis, moi je suis journaliste, moi je viens enquêter, point barre. Je ne fais pas partie d'une ONG. Les mères de famille nous ont reproché aussi, par moi, elles nous reprochaient d'aller voir les flics. Je dis, attends, moi, je ne travaille pas pour Amnesty ou qui que ce soit. Moi, tu me dis que ce policier-là, il est corrompu, je dois vérifier en tant que journaliste cette information. Point barre. Et oui, je comprends, on parle du féminicide, mais tout le reste découle de ça. Enfin, c'est un ensemble. On ne peut pas juste sortir le féminicide et ne pas parler du reste, je pense. C'est pour ça que ça s'appelle la ville qui tue les femmes. Parce que voilà, c'est un ensemble.
Si.
Ah oui, d'accord, pardon, d'accord.
Si, preferías que tuviéramos aquí, compañera, preferías que tuviéramos aquí a una de las funcionarias del gobierno mexicano. Tienen falditas, son mujeres y están tan implicadas en el crimen como, o sea, hay trabajos de mujeres, evidentemente.
Il y a des travaux de femmes, il y a des documentaires de femmes.
El documental de Clara Guadalupe García es muy
Guadalupe foto García.
De los que rompió el silencio, ¿no? Lamentablemente no escribe novelas policíacas y por lo tanto no llegó al festival. Clara.
Oui, c'est vrai. Il y a aussi un petit problème qu'on a, c'est que là c'est organisé pas par Utopia, mais par Toulouse Polar du Sud avec des auteurs de polar. Et malheureusement, peut-être les auteurs de polar sont
Pero
essentiellement.
Yo quería incorporar un elemento que es.
Il voulait parler d'un élément.
Que es paradójicamente en México hoy la Ciudad de México es vanguardia en muchos sentidos.
Paradoxalement la ville de Mexico est en avant-garde pour beaucoup de choses.
Es quizá la ciudad de América Latina donde se ha llegado más lejos en el debate sobre la violencia intrafamiliar y la protección de las víctimas de la violencia familiar.
C'est peut-être une des villes d'Amérique latine où le débat sur la violence familiale et la violence à l'intérieur des familles est arrivé le plus loin.
La Ciudad de México ha construido en los últimos 8 o 10 años una red inmensa de casas refugio.
La ville de Mexico a construit dans les 8-10 dernières années un réseau immense de maisons-refuges.
A construido un sistema de protección a madres solteras.
Il a construit un système de protection pour les mères célibataires.
Y el código penal de la Ciudad de México se modificó para aumentar las penas contra la violencia intrafamiliar.
Et le code pénal a été modifié pour augmenter les peines contre la violence dans les familles.
Esto no quiere decir que haya descendido, ha aumentado las cifras.
Les chiffres ont augmenté.
Y han aumentado porque hoy se conocen. Antes estaban
parce que maintenant
unidas
on le
en el subterráneo.
Avant c'était souterrain, c'était caché.
No, pero sin duda ha habido un salto adelante importante en la Ciudad de México.
A México, au district federal, il y a eu une avancée importante.
Sí, bueno, ya has contestado un poco a la pregunta que iba a hacer. Cuando dices que el lema es así, ¿no? Al ver el reportaje da la impresión de que es imposible que cambie la situación. ¿Qué puede hacer el gobierno?
No me digas eso. No,
es la impresión, no me la impresión animes. Que da. ¿Cómo se puede cambiar eso? No, ¿qué puede hacer el gobierno cuando da la impresión de que el 90% de la sociedad está... Es una sociedad corrupta. ¿Qué
elle croit pas à l'optimisme qu'avait montré no. Paco que ça peut s'arrêter un jour.
No, el 90% de la sociedad no está corrupta. No, está corrupto el 90% del aparato del Estado.
No, il y a pas 90% de la société
los
qui est corrompue.
Los
90% de no, l'appareil qui est corrompu.
Los
les citoyens
no participamos de la corrupción.
No, on fait pas
no nos gusta la corrupción.
On n'aime pas ça.
El problema es crear lo que Cuauhtémoc Cárdenas en el primer gobierno democrático de la Ciudad de México definió como la pinza.
Donc le truc c'est de faire ce que quand on était dans le premier gouvernement démocratique de la ville de Mexico, la pinza, la pinza.
La pinza.
La pinza, la pinza.
Que era 200 funcionarios públicos incorruptibles y una tremenda presión ciudadana y pescas a la corrupción en medio.
Et donc c'est une grosse pression citoyenne, 200 incorruptibles et entre les deux on attrape la corrupción.
La presión ciudadana ya existe y cada vez es más fuerte.
Citoyenne, elle existe et elle est toujours plus forte.
Ahora
de plus en plus
forte. Necesitamos en cada estado de la República 200 hombres honestos.
On a juste besoin
un gobierno diferente.
200 personnes honnêtes dans chaque état et un gouvernement honnête.
Les choses peuvent changer, je peux en témoigner et c'est important parce que parfois, effectivement, il arrive que les choses changent, y compris en dehors des états. C'est très important de le savoir. À Juarez, la première fois que je suis arrivé, il n'y avait pas de morgue climatisée. Les médecins légistes étaient des branleurs, il faut le dire. Tout ça était un vague décor pour distraire la galerie. En 2004, au Guatemala, une femme indienne, Quiché, dans les montagnes, a été violée pendant toute une nuit par deux policiers dans un village. Elle ne parle même pas espagnol. Grâce à une association de femmes qui s'occupe de droit, elle a quand même réussi à porter plainte. Le cas est allé devant un tribunal. Les chances que les policiers soient condamnés étaient si faibles que leur avocat n'avait même pas préparé la plus petite défense. Il se trouve qu'aujourd'hui, à Ciudad Juárez, il y a des médecins légistes qualifiés et qu'un médecin légiste de Juárez est venu bénévolement pour rendre un rapport sur les sévices que cette femme avait subis. Il se trouve que cette juge qui a jugé le cas était également une femme. Et il se trouve que pour la première fois dans l'histoire du Guatemala, c'est sans précédent, pour le viol d'une indienne, les deux policiers ont été condamnés à 20 ans de prison. Et notamment grâce à l'intervention bénévole de ce médecin légiste de Juárez. C'est la preuve que les choses peuvent changer. Grâce au travail des associations de femmes au Mexique, le féminicide est devenu un motif de honte nationale pour le pays. Au Guatemala, des femmes victimes pendant le conflit armé interne de viol, qui ne parlaient même pas de ce qu'elles avaient subi dans leur propre communauté, sont aujourd'hui capables, grâce au travail des femmes, de prendre la parole devant des auditoires de centaines et de centaines de personnes pour dénoncer les viols qu'elles ont subis. Oui, les choses peuvent changer. On ne peut pas dire que les choses ne changeront pas. On ne peut pas désespérer, nous, ici, qui avons tout, quand d'autres, là-bas, qui n'ont rien, ne désespèrent pas et continuent à se battre.
Oui, je voudrais dire deux choses. Parler par rapport à deux choses. Il y en a une. D'abord, par exemple, de dire que les féminicides, c'est le résultat de l'émancipation grandissante des femmes à Ciudad Juárez. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que ce n'est pas ça. Parce que ce n'est pas parce qu'ils peuvent travailler, par exemple, dans des usines de maquillage au nord, qui va les permettre à ces femmes-là d'accéder à un niveau de vie avec beaucoup plus de qualité et accéder à d'autres choses, donc la culture, l'éducation ou d'autres. Et moi, je pense que déjà le fait qu'il y a beaucoup de femmes qui habitent dans la frontière nord à Juárez et d'autres villes frontalières au Mexique, c'est dû aussi à des politiques d'abandon, par exemple, de la part du gouvernement mexicain, de la campagne, d'appuyer la campagne, la paysannerie, dans le but aussi de transformer le pays et le faire devenir un gros territoire semé de soucis de maquila partout. Et du coup, le fait qu'il y a beaucoup de femmes qui arrivent aussi à Ciudad Juárez pour travailler dans des usines, c'est aussi parce que il y a beaucoup de, dû à la migration, il y a beaucoup de familles qui sont décomposées. Donc c'est les femmes qui prennent le relais parce qu'il n'y a pas le père, il n'y a pas les frères peut-être aussi qui sont partis. Donc c'est les femmes qui sont confrontés à une réalité qui les pousse à travailler dans des conditions terribles où je pense qu'ils sont loin de trouver une émancipation, d'émanciper. Ça d'une part. Et d'autre part, il me semble que c'était M. Vasconcelos qui disait que le féminicide, pour lui, c'était un dommage collatéral. Un dommage collatéral du narcotrafic. Moi, je pense que c'est un raccourci quand même de dire ça, parce que c'est le narcotrafic, c'est une expression très forte de quelque autre chose qui se passe au Mexique. Le problème, c'est plus large que seulement le narcotrafic, parce que le narcotrafic, il y a eu toujours au Mexique, tout le temps. Et la guerre contre le narcotrafic s'est obéie à d'autres questions aussi. Par exemple, l'énorme besoin du gouvernement de Felipe Calderón de se légitimer après avoir arrivé au pouvoir à travers une énorme fraude. Et je pense que ce n'est pas tout à fait le narcotrafic la cause de toute la violence qu'il y a au Mexique. Il y a aussi une violence d'État, qui est manifeste dans plusieurs régions du pays. Donc, par exemple, on peut parler de la violence contre les communautés indigènes par tout le territoire. C'est une cause qui est bien sûr contre les femmes, mais aussi contre toutes les communautés dans l'ensemble, mais aussi contre la population civile partout où il y a des résistances à des projets, par exemple, où le gouvernement veut développer des projets économiques. Comme par exemple, il y a un projet qui a lancé Fox, qui s'appelait la Escala Nautica, dans tout le Pacifique. Et là, il a trouvé beaucoup de résistants parmi les peuples côtiers du Pacifique. Et parfois, quand on regarde à la loupe, les narcotrafics agissent aussi dans des endroits où le projet il était arrêté. Donc, c'est le cas, par exemple, à Nayarit, dans le port de San Blas. Il y a d'autres endroits comme ça. Voilà, donc je pense qu'il y a, la logique d'État aussi qui est derrière, et parfois elle est complice et tout ça, parce que je ne sais pas si c'est aussi moi je pense que le narcotrafic ça permet aussi un peu sous prétexte d'amener une guerre contre le narcotrafic de militariser tout le territoire et d'une façon ou d'une autre installer un régime de terror. Donc il y a d'un côté le narcotrafic, mais de l'autre côté il y a aussi toute la police fédérale et l'armée par exemple qui sert à des intérêts pas seulement des narcotrafiquants mais aussi des grosses entreprises et des projets de l'État.
Je crois qu'il faudrait penser que ningún proceso es un proceso aislado.
Il faut penser qu'il y a rien qui est isolé.
y que vives en sociedades complejas.
Qu'on vit dans des sociétés complexes.
El puro hecho de la emancipación laboral de Juárez no te explica el feminicidio.
C'est vrai que l'émancipation par le travail de Juárez, c'est pas ça qui explique le féminicide tout seul.
En ciudades como Irapuato, el 60% de los jefes de familia son mujeres.
A Irapuato, el 60% de chefs de familia son de femmes.
Que trabajan en las maquiladoras del vestido.
Que trabajan en las maquiladoras de textil.
No te explica el fenómeno de Juárez, el feminicidio de Juárez, la presencia brutal del narcotráfico.
C'est pas la présence brutale du narcotrafic qui explique tout seul le féminicide de Ciudad Juárez.
El narcotráfico tiene una implantación tan fuerte o más en lugares como Sinaloa.
Parce qu'il est aussi présent, sinon davantage, à Sinaloa.
Donde no se presenta una situación de feminicidio.
Où il n'y a pas une situation de féminicide.
No te explica el fenómeno, la corrupción y la impunidad policiaque.
C'est pas la corruption et l'impunité qui explique tout seul le féminicide.
Porque el 90% de México vive bajo regímenes de corrupción policiaque y impunidad.
Parce que 90% du Mexique vivent sous un régime de corruption policière et d'impunité.
¿Por qué Juárez?
Pourquoi Juárez?
Sin duda por la combinación de todos estos elementos y un accidente.
Sans doute pour la combinaison de tous ces éléments et un accident.
Curiosamente un accidente.
Curieusement un accident.
Que es los primeros asesinatos.
¿Qué son los primeros asesinatos?
Los primeros asesinatos crean en Juárez un clima en el mundo del submundo de que es posible y es impune.
Ces premiers assassinats, ils créent à Juárez la sensación, el fait que on peut le faire et on n'est pas puni.
Y las condiciones de facilidad.
Les conditions de facilité.
El anonimato.
L'anonymat.
Los largos paseos nocturnos de las fábricas de las maquilas hasta tu casa en medio de barrios donde no hay luz.
Les grands trajets qu'on doit faire entre là où laisse le bus et puis sa maison dans des espaces où il y a pas de lumière.
La horda que baja de Estados Unidos todos los fines de semana a la búsqueda de diversiones fuertes.
Les hordes qui descendent des États-Unis tous les week-ends à la recherche de sensations fortes.
L'impunidad policiaque.
L'impunité policière.
La condición de obreras pobres de las mujeres, todo esto se confunde y construye un fenómeno único.
Tout ça, ça se rassemble et ça crée un phénomène unique.
En México.
Au Mexique.
Je finirai en répondant à la première question que vous avez posée sur l'émancipation des femmes, parce que je voudrais préciser ma pensée. Quand j'entends émancipation des femmes, nous sommes bien d'accord, monsieur, que le travail qui est une misère et en contrepartie de négation permanente des droits des femmes dans les maquiladoras ne constitue pas en lui-même une forme d'émancipation. Mais, comme vient de le dire Paco, la majorité des femmes de Juárez qui travaillent dans les maquiladoras sont des chefs de famille. Et dans des situations où, quand elles sont encore avec des hommes, ces hommes n'ont pas de travail. Et cela génère, parce qu'elles sortent du foyer, ce qui est une forme d'émancipation, il faut bien le reconnaître. Et parce qu'elles font, voilà, ça génère énormément de violences intrafamiliales, et c'est une réponse très violente, souvent de la part des hommes. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on constate uniquement au Mexique. Partout et historiquement, les mêmes causes reproduisent les mêmes effets. Si vous lisez les écrivains européens de la fin du 19e siècle, si vous lisez Zola, si vous lisez Dickens, il y a eu une période où les femmes européennes sont sorties du foyer, sont allées travailler dans les usines pour des salaires de misère. Et les mêmes causes ont reproduit les mêmes effets. Il y a eu un Jack l'éventreur, il y a eu une bête humaine. Et donc, effectivement, c'est en ça que je parlais d'émancipation. Voilà, c'est simplement... la façon dont je voulais préciser cette pensée, c'est important.
On va prendre une dernière question peut-être parce que l'heure oui. tourne. Et puis...
je voulais dire un mot qui commencerait par « et nous dans tout ça, et nous français, et nous toulousains » et rappeler à la suite de ce qui a été dit, rappeler quand même que cette guerre qui se mène actuellement au Mexique, c'est aussi une guerre menée pour le développement industriel. Ce développement industriel, par exemple, actuellement, il y a au Mexique plus de 700 projets miniers qui visent à dévaster des régions entières pour chercher les derniers kilos, les dernières tonnes d'or, d'argent, etc., qui peuvent se trouver là-bas. On a parlé tout à l'heure, par exemple, de narco-gouverneurs. Il faut savoir qu'on est en train de terminer en ce moment, 2011, l'année du Mexique en France, et que le président pour l'année du Mexique en France, qui avait été désigné pour le Mexique, c'était Miguel Alemán, qui est l'ancien narco-gouverneur de l'État de Veracruz, et qui, par ailleurs, est père du patron d'une entreprise qui achète énormément d'Airbus. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut aussi qu'on regarde, qu'on balaye devant notre porte et que nous sachions que le système économique, capitaliste, comme on veut l'appeler, industriel, dans lequel nous vivons et qui nous alimente et dont nous ne sommes pas capables, nous, de sortir, semble-t-il, il a des responsabilités extrêmement directes. Le président pour la France de l'armée du Mexique en France était le PDG de l'entreprise Safran, de la holding Safran, qui est une entreprise qui fait dans les moteurs d'avion, les moteurs d'hélicoptères et qui a des usines là-bas et qui participe à cette guerre contre la population mexicaine, qui fait des systèmes de surveillance, qui fait... il faut savoir que la police française, tout à l'heure vous avez dit que vous avez été confondu au début avec des policiers français, effectivement, il y a quasiment en permanence des policiers français qui sont là-bas pour former, pour aller vendre du matériel français et pour former, soi-disant, les policiers mexicains. Mais à quoi? Je crois que c'est la question qu'il faut se poser. Voilà, merci.
Bonjour, moi je me posais juste la question de dans votre enquête, en fait, alors on voit la femme qui tient la Casa Amiga, c'est ça? Mais est-ce que vous avez rencontré des mouvements féministes à Ciudad Juárez qui se sont emparés de la question, qui ont une mobilisation un peu importante de structures féministes ou citoyennes, pas seulement que de femmes, hein, mais en tout cas de... ou alors, est-ce que peut-être que la situation sociale et politique fait que il y a une espèce de léthargie des mouvements sociaux et politiques et féministes sur ces questions-là? Alors, je ne sais pas, mais en dehors de la femme qu'on a vue, est-ce qu'il y a des mouvements politiques et féministes qui se sont mobilisés sur cette question-là, en fait, qui ont...
Moi, je trouve pas qu'il y a de léthargie, au contraire, il y a une vraie activité, une vraie énergie, et comme disait Paco tout à l'heure, on voit dans le film, c'est que les femmes, nous on a rencontré un père de famille en 2 ans d'enquête qu'on n'a même pas mis dans le film, tellement il était pas intéressant, enfin voilà, c'était pas intéressant, il a vu qu'on faisait un film, il est venu nous voir, quoi, il voulait passer à la télé, donc voilà, mais il y a beaucoup d'associations de alors c'est souvent des mères de victimes qui se réunissent, mais c'est juste pour pouvoir être à plusieurs et se confronter aux autorités. Il y a pas mal d'ONG, je sais plus si dans le film on voit Marcela Ortiz, la mère d'une des victimes, qui a même monté une radio de femmes qui est diffusée sur la FM. Il y a pas mal de mouvements, et c'est les femmes qui tiennent, qui sont à la tête de ces mouvements. C'est pas super organisé, mais voilà, on en a vu pas mal. Après, on pouvait pas tout mettre dans 52 minutes, mais il y en a beaucoup, et il n'y a pas un homme, quoi. Il n'y a pas un homme qui
juste pour ajouter qu'il y a juste. Notamment ces dernières années, il y a énormément d'organisations féministes des mères de ma famille, ça parle beaucoup de ça, et qui font des assemblées générales tous les vendredis. Et il y a beaucoup de figures de ce mouvement qui ont été assassinées également. Donc il y a des féminicides politiques qui sont perpétués justement pour casser ce type d'organisation et de résistance. Et juste, je voulais faire la petite anecdote, c'est qu'on voit à un moment donné Ni Una Más. Ça, c'est un slogan d'une poétesse féministe du Mexique qui a été assassinée, justement, qui dit « Ni una mujer menos, ni una más, ni un assassiné de plus. » Mais il est plus long. Mais voilà. Juste pour dire que, pareil, c'était une poétesse très engagée qui, pareil, a été assassinée, je crois, en 2010 ou fin 2009, ou un truc comme ça. C'est ce petit côté là, moi, que je vois pas dans ce documentaire et qui me manque, mais après c'est pas la commande, j'imagine, non plus du documentaire, et voilà, quoi. Donc,
Que manie.
Tout à l'heure, je me posais une question. À partir du moment où vous avez été là-bas en tant qu'homme, journaliste, est-ce que le fait de justement d'avoir été au milieu de personnes qui avaient peut-être une méfiance vis-à-vis des hommes, vu ce qu'elles subissaient, est-ce que ça ne vous a pas desservi au niveau de journalistique ?
D'être un homme ?
Oui.
Non, j'ai pas vu de...
Parce que j'imagine qu'à partir du moment où il y a autant de tensions entre... de la part des,
bah, on des était, hommes et des femmes, on
j'imagine
était surtout,
qu'il y a aussi une méfiance qui s'est créée. Donc,
non, on était surtout vus comme des journalistes étrangers.
Tienes que decir que si hubieras hablado en inglés, no hubieras encontrado el acceso que encontraste.
Si,
serás periodista francés, pero hablabas clarito en español.
Oui,
voilà. Ce qu'il dit, c'est que bon, ça n'a pas gêné, donc visiblement, qu'il soit un homme. Par contre, ce qui aurait rendu la chose impossible, c'est s'il avait parlé anglais. Le fait d'être français et de parler espagnol, ça a beaucoup facilité les choses.
On était journaliste européen et pas gringos, et je m'appelle Fernandez.
Et il s'appelle.
Donc ça aide. Non, mais c'est vrai que ça aide. D'ailleurs, il ne comprenait pas au début. Moi, je me présentais. Bonjour, je suis journaliste français. Oui, c'est quoi ton nom, Marc Fernandez ? Ah ben non, t'es pas français. Bah si, je suis. Enfin, je vais pas refaire l'histoire de ma famille, mais enfin voilà. Et effectivement, ça aide beaucoup. Et je pense que le fait d'être journaliste européen aidait beaucoup. Français ou pas, enfin c'est pas le problème. Mais ils nous voyaient plus comme une. Enfin, voilà, nous on venait pour faire les porte-voix, les porte-paroles. Voilà, on allait sortir cette histoire et la montrer ailleurs. Et pour elle, c'était ça le plus important, c'était amener cette histoire et pointer du doigt l'État mexicain. Et c'était ça qui les importait plus, pas le fait qu'on soit. Enfin, à part la folle d'El Paso Times, non, il n'y avait pas de. Ça nous a pas posé de problème d'être des gars. Au contraire, pour la police locale, c'était beaucoup plus simple. Bah, disons qu'ils sont tous quand même beaucoup corrompus, et le responsable, par exemple, de la communication externe de la police, comme on dit, lui nous a carrément proposé des prostituées, quoi. Si on avait été des journalistes femmes, ça aurait été plus compliqué. Mais là, il a vu une équipe de tournage de 4 gars. Il a dit, bah, venez, moi j'ai 4 filles à moi. Donc on lui a demandé de nous le redire face caméra, parce qu'on a cru une blague au départ. Évidemment, il a refusé, et juste on lui a expliqué qu'en même temps on écrivait un livre, donc il allait être dans le livre, quoi. Et il a dit, oh, tu peux pas, fais ce que je veux de toute manière. Donc oui, on l'a mis dans le bouquin, mais enfin voilà, je pense que si on avait été des femmes, ils n'auraient pas pu faire ça. Mais, bon.
Si on va y avoir. Une dernière, alors, parce que je veux dire, on a le problème, c'est qu'il faut qu'on reparte sur les lieux du festival. Après, on a des rencontres. Si une dernière.
Non, c'est très court. Donc, déjà au début, moi, quand j'ai. La fin, j'étais pas bien. Hein. Je me suis dit, on s'en sortira pas, il y aura pas de solution et tout. Mais au fur et à mesure des débats et des explications, donc, je pense qu'il y aura. Je pense qu'il y aura un espoir. Alors juste pour, d'abord, merci beaucoup pour ce documentaire, vraiment. Voilà, moi, ça m'a rappelé l'histoire de ces femmes algériennes aussi, qui ont été assassinées sur le chemin de l'usine aussi. Donc les femmes, en fait, c'est pareil un peu, c'est que ces femmes se sont retrouvées sans hommes parce qu'il y avait le terrorisme et tout. Donc entre les hommes qui sont partis au maquis, les hommes qui ont été assassinés, elles n'avaient pas un autre choix que d'aller bosser pour faire vivre leur famille. Et sur la route de l'usine, elles ont été assassinées. Il y en a une qui a échappé et qui témoigne. Donc il y a un livre qui s'appelle « Laissée pour morte ». Et ça m'a vraiment interpellée là-dessus. Donc en fait, ce que je vois, c'est que les femmes, elles sont toujours victimes quand il y a les guerres économiques, les guerres... quelles que soient les guerres. Et donc, ce genre de documentaire, peut-être, bon, voilà, il va faire avancer les choses. Et moi, je trouve que, on peut dire même que c'est, par rapport à à l'international, en fait, au monde, il y a une non-assistance en personnes en danger parce que c'est un génocide et que peut-être les autorités internationales pourraient faire quelque chose là-dessus. Quand il y a un génocide, on crie tous halte au génocide et aujourd'hui, ça, pour moi, c'est un génocide, que ce soit des femmes ou que des ouvriers ou des pauvres. Donc, c'est toujours les mêmes victimes, des femmes, des ouvriers. Et ces femmes-là, qui, on pense, elles s'émancipent, elles vendent juste leur force de travail. Hein. C'est tout. À 3 dollars, c'est pas... Voilà. Et merci beaucoup, en tout cas.
Vous faisiez allusion au pogrom de femmes à Sime Saoud, j'imagine. Voilà. Alors, on va rappeler un petit peu, parce que j'ai travaillé un petit peu sur le dossier. Donc, ça s'est produit à plusieurs reprises, en réalité, en 2001 et en 2010, donc à 9 ans d'écart. Il y a eu, donc, des pogroms de femmes. C'est-à-dire qu'une fois, elles ont été tuées sur la route de l'usine, mais une autre fois, donc, dans le pogrom précédent, les hommes, à la suite d'un prêche particulièrement violent le vendredi, étaient descendus en ville dans le quartier où vivaient ces femmes et ont sorti les femmes de chez elles et les ont massacrées. Et évidemment, c'est, encore une fois, le message de violence adressé aux femmes par la société des hommes. Voilà.
Je vous propose qu'éventuellement, si vous pouvez continuer à discuter un peu avec eux, il y a des livres dehors. Il y en a un qu'on n'a pas beaucoup entendu, comme d'habitude, et j'ai essayé de le faire parler en premier, mais après, c'est rappelé.
Tengo una noticia positiva, que yo escribí la historia de Irapuato, que es justo todo lo contrario.
Lui, il a écrit l'histoire d'Irapuato, qui est le
contraire. El libro se llama Irapuato, mon amour.
Irapuato, mon amour.
Que es la historia del movimiento de las mujeres de las fábricas de Irapuato, que triunfan.
Et c'est les femmes de la fábrica d'Irapuato, et elles gagnent.
Et no hay feminicidio ahí.
Et là, il n'y a pas de féminicide.
El catálogo del horror es demasiado grande y es peligroso porque el horror paraliza.
Il faut faire attention parce que le catalogue de l'horreur, il est dangereux parce que l'horreur paralyse.
Cuando el panorama es absolutamente negro, el horror paraliza.
Quand le panorama est complètement noir, l'horreur paralyse.
Y lo último que necesitamos en México es miradas de conmiseración.
Et la dernière chose dont on a besoin au Mexique, c'est des regards de commisération.
O parálisis.
Ou de la paralysie.
Hay que seguir, hay que moverse cada vez más.
Il faut se bouger toujours plus.